Merci bien. Je voudrais accueillir maintenant Jérôme Carayol qui va nous parler donc du sujet suivant, la dynamique donc du New Space après cette introduction par Pierre, et puis justement quelle perspective, quel benchmark ciblé sur le New Space. Je t'invite à te
Merci
mettre
Marc.
là-bas au pupitre, ça sera plus simple.
Oui,
Ici,
Erwin.
et là, c'est la flèche verte pour avancer et la flèche rouge pour reculer.
Fonctionne, oui. Bonjour à tous. Alors, nous ne sommes pas le puits de science que vous êtes. Donc notre. J'appuie sur ici peut-être? Sur le vert, voilà, magnifique. Donc, en tant que cabinet de conseil en management, dont nous avons essayé d'analyser. Certaines choses de manière peut-être plus modeste, mais qui nous paraissent intéressantes aussi. Derrière ce titre un peu abscon, qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Nous avons travaillé en 3 temps. Nous avons essayé de comprendre la dynamique de financement des startups du New Space européen avec une démarche bottom-up, c'est-à-dire que très concrètement, nous avons marqué 82 startups que nous avons suivies, dont nous avons suivi l'évolution sur les 10 dernières années. Donc nous y reviendrons. Nous allons vous présenter ça en 3 temps très, très courts et très courts évidemment. Dans un deuxième temps, nous allons chercher à prendre un peu de hauteur et à comparer un peu ces dynamiques avec d'autres plaques continentales, donc évidemment les États-Unis. Nous avons un peu regardé aussi la Chine. Et puis, troisième temps, nous avons essayé de faire le match entre cette dynamique de financement et puis les potentiels de marché estimés pour voir effectivement si les investissements, le financement étaient alloués là où les potentiels de marché paraissaient les plus intéressants, avec toutes les réserves d'usage que vous avez pu mentionner aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est évidemment de rentrer dans le sujet. En précisant que, évidemment, le New Space européen, ou le New Space tout court, ne se résume pas aux startups, mais évidemment, le titre est un peu peut-être provocateur, mais le secteur spatial vit une hyper-transformation qui, selon nous, va évidemment embarquer beaucoup plus que des startups, pour plein de raisons, et embarque d'ailleurs au premier rang des acteurs, au premier rang desquels les acteurs évidemment historiques du spatial, qui vivent eux-mêmes une transformation, qui doivent l'opérer, mais plus largement, les acteurs aussi que je vais qualifier de terrestres ou de terriens, c'est-à-dire partie de droite, les acteurs industriels, les opérateurs de services, et on en parlait avec Marc hier, jusqu'à l'utilisateur, au consommateur final, donc la dimension B2C, qui a aujourd'hui dont on a du mal à voir effectivement le bout du nez. Donc c'est tout à fait fondamental de bien avoir ça en tête. Aujourd'hui, cette hyper-transformation passera, doit passer par embarquer tous ces acteurs, faire bien la connexion entre le spatial et le monde des terriens, des terrestres, les acteurs industriels et les opérateurs de services. Je le dis parce que cette connexion n'est pas encore aujourd'hui vraiment opérante. Voilà, c'est pour mettre aussi en perspective les limites de notre étude qui n'embrasse pas tous les enjeux du New Space. Ceci étant dit, donc on s'est concentré sur ce New Space européen, donc sur un échantillon de 82, comme je le disais, start-up, qui sont représentatives de cette dynamique de financement, puisque comme vous le voyez, elles représentent à peu près les 2/3 du total de fonds qui a pu être levé dans la période. Vous voyez les segments sur lesquels elles sont positionnées. Et donc, nous avons évidemment utilisé à la fois toutes les sources de données qui peuvent être disponibles, et puis notre outil d'intelligence artificielle pour essayer de mouliner tout ça. Et sans plus tarder, Erwin, je propose que tu poursuives.
Alors, vous voyez ici la dynamique de parcours de ces startups. Et effectivement, nous, ce qu'on a regardé, c'est leur taux de passage à l'échelle chaque année. Donc, vous avez la période observée qui est de 2017 à fin 2024 et le ruissellement vers le haut de ces startups dans ce cycle de financement. Nous, on a catégorisé en 4 étage de financement, on a l'amorçage, le seed, où là, on a notre pool de start-up. Elles étaient 43 parmi notre échantillon de 80 dans 2017, dont la plupart d'ailleurs créées antérieurement au début des années 2010. Et puis, au fur et à mesure, d'autres se sont créées jusqu'en 2022, et ça nous donne ce panorama ici, fin 2024. Donc, à noter surtout qu'on a une forte sélectivité, surtout à l'amorçage. On a seulement 12% en moyenne chaque année de nos start-up qui arrivent à accéder au premier étage de financement qu'on a appelé l'early stage, qui correspond finalement à une série A en capital risque. Et puis après, on a toujours une sélectivité, certes un peu moins forte, 24% pour accéder au passage à l'échelle, donc c'est-à-dire au-delà d'une série B, et puis enfin 22% pour passer sur les derniers étages de financement, donc le late stage, c'est-à-dire les tours de table les plus critiques. Et donc ça nous donne ce panorama-là, fin 2024, avec 19 et 13 startups qui sont, en tout cas, ont amorcé leur passage à l'échelle, ce qui porte le total à 32 startups sur notre échantillon de 82.
Donc on voit quand même que c'est une course, un marathon, un peu une course d'obstacles ou une course de haies, c'est pas le 110 mètres haies, hein. Il y a des haies, mais c'est beaucoup plus laborieux, même si bon, ça produit les résultats que l'on voit là. Et en synthèse, donc, on vous a proposé un peu le cycle de développement, et vas-y, dis-en un mot.
Oui, et donc effectivement, on a 32 startups à l'heure actuelle, début 2025, qui sont en tout cas en passe de faire ce passage à l'échelle. Néanmoins, quand même, on a quand même l'équivalent avec quasiment donc du coup 28 startups, 34% qui sont elles n'ont jamais décollé. Elles sont restées en seed à l'amorçage. Donc on a quand même une forte polarité. Sur ces 32 startups, nous on a observé un délai moyen de 6 ans pour passer à l'échelle, mais on l'a vu sur la slide précédente. Avant 2019, on n'en avait aucune qui avait atteint le stade de late stage. Donc on est quand même sur des cycles qui restent longs, malgré finalement cette tendance à l'accélération au niveau de ce délai moyen pour faire ce passage à l'échelle. Et puis on s'est essayé à une projection jusqu'en 2029, ayant dans notre analyse les dernières startups observées qui ont été créées en 2022. Donc ça nous donnerait ce panorama-là, avec, au vu des taux de passage annuel moyen qu'on a observés dans le cadre de notre étude, 66%, c'est-à-dire 34 et 17, au total 51 startups d'ici fin 2029. Mais voilà, donc comme je l'ai dit, ça reste des cycles longs. Nos premières startups observées datent du début des années 2010 jusqu'à début 2020. Aucune n'avait réussi à faire des tours de table dans des cycles très avancés. Ça s'est accéléré par la suite, mais ça donnerait quand même de manière optimiste 2/3 de notre échantillon sur les derniers étages de financement.
Alors de manière optimiste, effectivement, mais quand on considère le temps et le parcours, on est finalement sur une vingtaine d'années, une génération, quoi, à notre échelle d'humain, si je puis dire. Donc c'est effectivement, malgré tout, on peut considérer assez laborieux. Alors, on s'est demandé si c'était le cas partout, évidemment, donc on a cherché, en prenant un peu de hauteur et en sortant un peu de ces 82 startups, si le cas échéant vous êtes intéressé de savoir, d'en savoir plus, on pourra en discuter évidemment en dehors de ce cycle-là, puisque on est un peu pressé par le temps. Donc voilà ce qui s'est passé durant la même période. En comparaison avec, en particulier les États-Unis, on a aussi un peu jeté un coup d'œil sur la Chine.
Oui, donc on ne voit pas forcément de stratégie lisible d'ailleurs sur chacune des régions. Il y a des années qui sont bien plus fructueuses que d'autres sur les montants levés. Néanmoins, ce qui déjà frappe au premier abord, c'est que les États-Unis, sur la période observée 2017 jusqu'à fin 2025 qui a été projetée, ont capté 2/3 des financements à capital risque. L'Europe et d'ailleurs l'Asie qui suit de près ont commencé à réellement décoller à partir de 2020, mais comblent surtout un retard, et d'ailleurs c'est même pas un retard qui est comblé, c'est un retard qui finalement se creuse quand on voit les tendances de courbe là, qui apparaissent sur cette période de 8 ans. Les États-Unis, on est sur une pente qui ressemble plus à quelque chose d'exponentiel, là où en Europe, et c'est le cas également en Asie, on est sur quelque chose de beaucoup plus modéré. Et si on pousse d'ailleurs l'analyse, c'est un écart qui se creuse au-delà de l'amorçage, où en Europe, finalement, on n'est pas si mal. On a des startups talentueuses qui arrivent à accéder à ces premiers tours de table. 61% pour l'Europe, 48% seulement aux États-Unis. Mais ça signifie surtout qu'il y a 52% des deals, des tours de table aux États-Unis qui sont réalisés au-delà du site. Donc il y a un passage à l'échelle qui est beaucoup plus facilité côté américain que côté européen. Et c'est encore plus flagrant quand on regarde les chiffres juste en dessous. Il y a un rapport de x5 entre le nombre de tours supérieurs à 50 millions de dollars en Europe versus les États-Unis. Un élément de réponse étant qu'en Europe, on n'a pas forcément la capacité d'avoir des fonds spécialisés space tech, capable d'accompagner nos startups sur ces derniers étages de financement qui sont pourtant les plus critiques.
Et pourquoi avons-nous pris cet angle aussi de financement? C'est qu'on a considéré que pour une start-up, bon, c'était relativement représentatif finalement des capitaux propres, ou en tous les cas, on pouvait en faire une sorte d'analogie. Et pourquoi c'est intéressant, c'est qu'on peut constater, et c'est largement généralisable à d'autres secteurs, qu'ils soient industriels, en particulier industriels, on a quand même, en particulier en France, des boîtes PME, start-up PME, jusqu'à certaines ETI aussi, sous-capitalisées ou en tous les cas qui n'ont pas suffisamment de capitaux propres pour se développer, se diversifier, innover, là en l'occurrence scaler. Et effectivement, on le retrouve de la même manière dans le New Space. Donc ça, c'est en ça que cette dimension financement nous paraît intéressante. Enfin, retenons qu'on a, comme vous le disiez d'ailleurs, des boîtes qui sont finalement sous-capitalisées ou insuffisamment capitalisées pour cette course à la taille critique, cette course à la vitesse. Prenons peut-être les courbes avec un peu de prudence, parce qu'on voit aussi que les développements sont un peu erratiques. Enfin, c'est difficile de tracer réellement une hyperbole pour les États-Unis, mais enfin, on voit quand même effectivement là où le bât blesse, quoi, en définitive. Et puis donc, en troisième temps, nous nous sommes intéressés à croiser finalement ces, je sais pas si on peut appeler des stratégies d'investissement, de financement, mais en tout cas de croiser cette dynamique de financement avec la dynamique de potentiel business. On pourrait parler de retour sur investissement finalement. Donc ça donne. Ah non, pardon, excuse-moi, je suis un peu en avance.
Ouais, on s'est quand même essayé un exercice qui était on a repris les deux courbes de la slide précédente, c'est-à-dire le capital risque levé en Europe et aux US sur la même période. Mais cette fois-ci, on a fait l'exercice d'additionner les grands programmes de l'ESA, notamment donc, par exemple Galileo, Iris Carré. Et ça nous donne cette courbe en bleu ciel qui finalement, on serait pas si mal, on comble un certain retard avec les États-Unis, on n'est pas encore réellement compétitif, on ne dépasse pas leur courbe qui, je le rappelle, est juste une courbe de capital risque et on n'a pas forcément pris en compte les commandes publiques états-uniennes. Par contre, on fait le détail à côté. Et déjà, donc on a toujours ce rapport de x3 entre le capital risque européen et états-unien. Une autre chose à noter, c'est les commandes publiques dédiées aux startups, ce qui est quasiment inexistant côté européen. Par contre, au niveau des États-Unis, je prends l'exemple de SpaceX avec des contrats fléchés directement avec la NASA. Donc on a quand même un abondement. Enfin, un marché, en tout cas intra-américain qui existe outre-Atlantique, qui n'est pas forcément le cas côté européen. Et surtout, le plus frappant, c'est la zone assurée en noir ici, qui sont donc ces fameux grands programmes, qui sont fléchés non pas vers les start-up, comme on a pu faire l'exercice à gauche, mais qui sont fléchés finalement pour les industriels et les grands groupes. Ça représente quand même 13 milliards de dollars, qui permet donc de redresser cette courbe-là, même si, encore une fois, ça ne reste pas suffisant. Mais en tout cas, ces montants-là ne sont pas forcément fléchés vers les startups directement.
On ne cherche pas forcément à opposer les startups et les grands groupes, hein, mais ta remarque reste valide. Donc, voilà, pour en aller au fameux potentiel business. Alors, bon, j'ai un peu plus d'expérience qu'Erwin. Après 25 ans de métier, on va dire, je suis toujours assez prudent par rapport à ces estimations. J'ai pas vu un seul business plan dans ma jeune carrière se réaliser à la fin. Donc restons prudents. Toutefois, bon, d'une part, on est quand même dans deux journées qui doivent donner aussi le souffle par rapport à cette dynamique New Space. Et puis, bon, ce sont des données qui ont à la fois le mérite d'exister. Je pense qu'ils posent un peu malgré tout le cadre. Donc, on s'est concentré à partir de différentes données. Vous parliez de McKinsey, il y a également le Gartner, évidemment, avec son fameux Hype Cycle, sur les 10 marchés du New Space à plus fort potentiel estimé, j'insiste là-dessus, en essayant de prendre une focale un peu plus, assez moyen-long terme. C'est pour ça que vous ne voyez pas toutes les applications possibles qui sont d'ores et déjà à disposition ou qui sont en train d'être développés, qui seront matures à court terme. On a fait plutôt là l'exercice finalement stratégique de poser un regard à moyen long terme. Donc ça donne ceci. Vas-y, Hervé, continue.
Oui, donc, quelques clés de lecture. Donc, on a repris nos 5 segments initiaux. Donc, vous avez les codes couleurs à la fois sur le graphe de gauche et de droite. Et effectivement, on aurait en tout cas cette tendance, sans prendre forcément au sens strict ce top 10, mais en tout cas, voir sur quel segment sont positionnées ces industries, ces technos de demain. On remarque que 9 de ces 10 technos sont dans l'aval, c'est-à-dire les 3 segments de droite, exploitation de systèmes satellitaires, transmission, analyse de données, et également économie spatiale. Et à droite, on a en fait détaillé donc, du coup, les montants levés qu'on a vus précédemment parmi ces 5 segments, à la fois sur la région européenne et aux États-Unis. Et donc on voit déjà d'une part que ce n'est pas une surprise que l'Europe termine un peu son cycle de financement sur l'infrastructure. On est en retard et on comble ce retard actuellement. Mais il y a surtout sur ces segments-là où se créera la valeur demain, un positionnement qui est beaucoup plus timide que les Américains. On tient tête néanmoins sur la transmission analyse de données, vous le voyez sur les bulles bleu ciel à droite, où effectivement on réalise un nombre de deals comparable aux États-Unis, même si encore une fois vous avez le détail à côté de chaque bulle. On réalise sur la transmission analyse de données 10 deals de passage à l'échelle versus 4 fois plus aux États-Unis, 41. Par contre, sur l'économie spatiale par exemple, où on a 4 bulles représentées sur les 10 technos de demain, on n'a toujours pas démarré notre investissement sur ce marché-là, où pourtant devrait se créer la valeur demain. En tout cas, la valeur se créera en tout cas sur l'aval, là où nous, on termine encore notre financement sur l'amont.
Et peut-être à un peu plus, court terme, et en tout cas sur des sujets peut-être plus terre-à-terre, qu'Arvin a voulu appeler Space à Terre. Tu veux en dire un mot aussi, s'il te plaît ?
Non, effectivement, donc, ce qu'on a remarqué, c'est que le spatial au global, c'est-à-dire la valeur générée que pourrait toucher le spatial, s'élèvera à 1 800 milliards de dollars d'ici 2035. Et effectivement, 2/3 de cette enveloppe serait sur Terre et non pas dans l'espace. Il y a bien sûr, c'est adressé via des technologies comme le GNSS notamment, qui contient 2/3 de cette enveloppe-là, qui est une technologie mature, où les startups n'ont pas forcément leur carte à jouer dorénavant. Néanmoins, il reste un panel de technologies futures, pardon. On peut citer la connectivité, le direct-to-device, le VSAT, le manufacturing in space, on l'a vu précédemment, la R&D également dans l'espace. Ce panel de technologies futures représenterait 1/3 donc, du coup, de ce que pourrait toucher le spatial sur Terre, c'est-à-dire 387 milliards de dollars. Et nous, on a essayé de pousser l'analyse pour pouvoir représenter parmi 8 secteurs d'activité sur Terre comment pourrait se répartir cette enveloppe.
Oui, est-ce que je peux ajouter par rapport à ce que tu dis, Arvin, c'est peut-être 2 choses. La première, c'est que pour être particulièrement bien connecté aux acteurs industriels, aux opérateurs de services, donc à ce que j'appelle un peu les terriens ou les terrestres, on se rend compte que, je reviens là-dessus, la connexion entre le spatial et ces acteurs-là n'est pas complètement fluide, n'est pas complètement mature. Et nous, en tous les cas, quand on essaie de pousser des cas d'usage auprès de nos clients, de tous les secteurs et de l'économie, on ressent bien que dans certains cas, ce n'est pas la priorité. Dans d'autres, des ballons d'essai se font. Mais voilà, on en reste au use case, à la POC, au ballon d'essai, sans passer à l'échelle ou s'en démultiplier, s'en déployer plus largement, sans business model non plus. Moi, ce qui me paraît intéressant là, c'est de se dire, OK, il y a a priori des promesses de valeur, de la création de valeur à proposer à ces acteurs-là. S'il y a une... Et ça fera partie éventuellement des pistes de réflexion ou des recommandations, en toute humilité évidemment, mais de le go-to-market vis-à-vis de ces utilisateurs B2B pourrait être tout à fait accéléré. Et puis, quand on regarde, c'est le deuxième message, les 30% qui s'adressent au grand public et aux consommateurs, mais si on ouvre un peu plus largement mobilité, transport, à la fin, il y a nous. Si on regarde finance, assurance, à la fin, il y a nous, etc. etc. On se rend compte que la connexion, pour le coup, avec le consommateur final, le client B2C, elle, on en discutait hier avec Marc, est encore moins évidente ou encore plus émergente ou parfois inexistante. Voilà. Et que ça forcément, quand on voit ce type de graphe, ça fait tout de suite, en tous les cas pour des gens comme nous, écho à business model. Et aujourd'hui, des business models, on a un peu de mal à les voir émerger. Qui fait peut-être la transition vers la conclusion. Donc, peut-être à plusieurs niveaux, effectivement. Bon, le premier, c'est que on voit bien que le VC en Europe, le private equity, le financement privé ne permet pas de scaler. En tous les cas, n'est pas suffisant pour arriver à allumer tous les étages de la fusée, si je puis dire. Donc, il y a une première réflexion, je pense que ça a été partagé aussi dans le rapport 2027, c'est ça ? Objectif 2027, merci Marc. Effectivement, de renforcer aussi le financement à travers donc, des véhicules existants, comme peuvent être les SPAC. Pourquoi pas un fonds ad hoc comme on le voit dans la défense ? Flécher la commande publique, évidemment, pour avoir participé à certains groupes de travail avec peut-être certains d'entre vous. Le sujet de la commande publique revient régulièrement et que cette commande publique, effectivement, puisse irriguer les startups. La taille critique est tout à fait fondamentale. On est quand même dans un secteur capitalistique où les investissements sont importants. Vous en parliez, alors on le voit pour, je parlais d'hypertransformation qui ne concerne pas que les startups, loin s'en faut, puisque avant tout et en premier lieu, la compétitivité est un enjeu pour les grands historiques. On le voit actuellement avec le projet de consolidation Airbus, Thales, Leonardo. Bon, donc effectivement, cette taille critique, ces effets d'échelle sont tout à fait... structurant, vous en parliez mieux que moi, donc je ne vais pas m'apesantir dessus. La notion de partenariat public-privé paraît être aussi quelque chose de une condition de, si ce n'est de réussite, en tout cas un facteur important. Troisième point, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur. On en a parlé souvent avec Marc, Pierre-José aussi. Le spatial par le spatial. Alors c'était encore plus vrai sans doute l'an dernier. Mais ce qui nous avait interpellé, c'est qu'effectivement, on ne voyait pas d'acteurs terrestres participer à ce type d'événement. Je ne sais pas ce qu'il en est cette année. Un peu mieux, ça s'améliore. Donc c'est peut-être notre cycle de 6 ans pour scaler. Donc peut-être qu'il faudra 6 ans pour... Mais trêve de plaisanterie, effectivement, je pense que c'est tout à fait... il faut déciloter finalement le spatial. Alors j'en profite pour saluer aussi le très bon travail, très, très utile du Connect by Kness, évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a un effort sans doute là à, comme dirait l'autre, ouvrir les portes et les fenêtres, aller voir, connecter, pour, parce que de l'autre côté, la demande n'est pas mature non plus, hein, donc il faut la faire émerger. Et bien pour générer des cas d'usage, petit à petit faire reprendre un peu cette dynamique. Voilà. En terminant par une question, est-ce qu'un programme aussi structurant tel que peut être Iris Carré peut être aussi un game changer qui est susceptible un peu de répondre en tout ou partie aux questionnements que cette étude a pu révéler. Voilà, donc merci pour votre attention. Je pense qu'on a... Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose.
Non, c'est bon.
C'est bien, bon, parfait. Merci pour votre attention et on poursuit l'après-midi.
Merci Jérôme, merci Ervan. Donc pareil, une petite synthèse en une phrase qui va forcément être fausse, mais pour essayer de conclure. Dans certains domaines, enfin, je sais pas moi, le fromage, enfin le lait, à partir du lait, on arrive à faire du fromage et des produits dérivés, où il y a des sociétés plus sophistiquées au Japon et en Corée, qui à partir de l'électronique ont finalement fait des téléviseurs et puis plein d'applications, et elles ont pu aller directement vers le marché en B2C. Par contre, cette fois-ci, avec des efforts par l'État qui étaient importants, parce que être capable de faire des chips avec des pommes de terre ou de faire du fromage avec du lait, ce n'est pas les mêmes moyens, les mêmes infrastructures que de transformer de l'électronique en téléviseur. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cas aux États-Unis avec voilà, le cas particulier de SpaceX, où il a réussi à lever les fonds pas que dans le spatial, dans d'autres domaines d'activité, pour aller de la batterie à la voiture, ou du moteur électrique à la voiture, ou de l'ordinateur à la voiture, ou de l'accès à l'espace jusqu'à des services chez chacun des citoyens pour l'Internet par satellite. Ça nécessite des fonds importants qu'on a du mal à lever chez nous en Europe, parce qu'on n'a pas cette, je pense, l'État qui s'engage dans ces activités-là de façon aussi importante qu'aux États-Unis, même si les États-Unis ne sont pas communistes. Et puis, on n'a pas non plus du capital risque, des gens qui sont prêts à miser sur ce genre de choses sur le long terme, puisque le ticket d'entrée du spatial est beaucoup plus cher que celui de la transformation de la pomme de terre en chips. Donc, on n'a pas la solution. C'est pour ça que les assises du New Space sont là, pour essayer justement de sortir, c'est ce qui vient d'être dit, de sortir de l'entre-soi, essayer de faire miroiter, de faire comprendre voilà, les valeurs qu'il peut y avoir dans la possibilité d'utiliser l'espace. Merci pour ces deux interventions.